Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver nombreux pour découvrir ensemble d'autres nouvelles qui ont marqué les dernières heures. Sans plus attendre, voici les principaux titres. Le choléra continue de ravager la RDC. Près de 1200 cas suspects et 22 décès signalés en une semaine selon le ministère de la Santé publique qui appelle à une mobilisation urgente pour endiguer l'épidémie. Au forum Crans-Montana à Casablanca, Maroc, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, rassure les hommes d'affaires sur les opportunités d'investissement en RDC, soulignant les réformes économiques et les mesures incitatives mises en place pour attirer les investisseurs. Crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous en discutons avec notre invité, le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Il vient de conclure une tournée régionale commencée vendredi dans la région des Grands Lacs où il a rencontré successivement le président de l'Ouganda, du Burundi et de la RDC. C'est tout pour les titres. Le choléra continue de sévir à travers le pays. Le ministère de la Santé publique a lancé cette alerte lors du conseil de ministres tenu vendredi dernier à Kinshasa. Selon le rapport du gouvernement reçu lundi par Radio Okapi, au moins 1198 cas suspects de choléra ont été enregistrés, dont 22 décès au cours de la semaine dernière. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette situation sanitaire inquiète au plus haut point le gouvernement de la République ayant tiré la sonnette d'alarme. C'est la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui a présenté ses rapports au nom de son collègue de la santé publique, mettant en lumière les données de la 15e semaine épidémiologique. À une seule semaine, au moins 1198 cas suspects de choléra, dont 22 décès ont été signalés, faisant grimper les taux de létalité à 1,8% à travers le pays. Au cours de la même semaine, la variole des singes, autrement appelée Mpox, est passé de 1453 à 2044 cas, soit une augmentation de plus de 40%. Bien que plus de 521 000 personnes aient été vaccinées, cette pathologie continue de se propager dans plusieurs provinces du pays. Une situation qui met en évidence les défenses du système d'assainissement, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines de la RDC. Toutefois, des voix s'élèvent sur le terrain pour dénoncer un manque de moyens logistiques et une coordination faible entre les acteurs sanitaires et une communication encore trop limitée face à la désinformation.
Dans la province de l'Ituri, un mort et plusieurs blessés graves ont été enregistrés lors de deux accidents de circulation survenus samedi à Bounia. Selon des témoins, un homme et sa femme circulant à moto ont percuté un camion remorque en stationnement, entraînant la mort du mari sur place. Le deuxième accident s'est produit dans le quartier Nyakasanza, où un camion a heurté plusieurs personnes se trouvant au bord de la route. Les commissaires supérieurs Ndoleri et Yassine, commandant urbain de la police de circulation routière, revient sur les causes de ces accidents. Il est au micro de Niclette Kodiango.
La cause est juste la retenue, excès de vitesse, ivresse au volant et imprudence au volant. Voilà les trois causes qui ont fait qu'il y a eu accident juste à la fin de l'hôtel classique. Et nous avons enregistré quatre victimes blessées, dont une fracturée, dont deux sont à la clinique Salama et deux sont au centre hospitalier Mérite, juste à côté, là où il y a eu l'accident, toujours à la cité. Et effectivement, nous avons beaucoup de moyens que nous avons utilisés. D'abord, nous utilisons la sensibilisation à la radio. Et à chaque fois, nous passons la radio pour sensibiliser les gens, les usagers de la route, par rapport au respect des nouveaux codes de la route. C'est ce que nous sommes en train de passer. Et aussi, vous voyez nos éléments dans les différents carrefours, sont placés dans les carrefours, juste pour des missions de régulation. Et ils sont là aussi pour prévenir à ce qu'il n'y ait pas d'accident, pour éviter les encombrements. Et voilà la prise de zone de nos éléments. Même aujourd'hui, vous avez vu que il y a un nombre à augmenter. Nous avons eu les stagiaires qui sont venus nous rejoindre aussi. C'est juste leur présence, ils sont dans la sensibilisation.
Comme indiqué dans le titre, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, encourage les hommes d'affaires à investir en République démocratique du Congo. Il a exprimé cette invitation lors du forum Crans-Montana qui s'est tenu du 24 au 26 avril à Casablanca, au Maroc, selon une dépêche de la cellule de communication de son ministère. Partagée hier lundi, le patron de l'économie congolaise a assuré les participants que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, supervise personnellement les dossiers de l'amélioration du climat des affaires en RDC. Ces propos ont été recueillis par Blaise Makassi.
Les investisseurs parlent de la République démocratique du Congo. Ils disent oui, il y a du potentiel, mais le climat des affaires laisse à désirer. Il y a des choses qu'il faut améliorer. S'il y a un des dossiers qui est aujourd'hui pris en charge directement par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la question du climat des affaires. Il a créé dans son cabinet une cellule chargé justement de faire le monitoring du climat des affaires. Il préside régulièrement des réunions d'évaluation des réformes en cours pour, à son niveau justement, garder l'impulsion sur les réformes qui ont été initiées et s'assurer que ces réformes produisent les résultats escomptés et rassurent de plus en plus les investisseurs. Parce que les lois essentielles existent. La République démocratique du Congo a, depuis 2008-2009, mis en place un cadre légal qui devrait favoriser les investissements étrangers.
Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, le PNUD prévoit de lancer un projet visant à promouvoir l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés pour la cuisine à Kananga, dans les Kasaï central. Pour ce faire, le programme a recruté deux experts. Sylvia Saparone, l'un des experts, explique que l'objet est de remplacer l'utilisation du charbon de bois dans les ménages afin de lutter contre la déforestation. Il est au micro de François Kadima.
Le gaz de pétrole liquéfié est une alternative pour remplacer le charbon de bois pour réaliser de la cuisson propre. Le charbon de bois en Afrique subsaharienne est la source dans certains pays comme la RDC, principale d'énergie pour faire la cuisine. Cela a deux effets néfastes, la déforestation, il faut bien utiliser du bois pour réaliser le charbon de bois, et il y a un problème d'hygiène publique parce que la combustion avec le charbon de bois effectivement expose les utilisateurs à des fumées nuisible. Le PNUD a lancé depuis 2022 une série d'études visant à la réalisation de plans directeurs qui sont des outils qui permettent de faire un état des lieux sur les paramètres socio-économiques des régions visées afin de prévoir la mise en place d'une activité d'importation et de négoce de gaz de pétrole liquéfié. Ce travail a déjà été fait dans la région de Kinshasa et du Congo central et maintenant il est question de le faire dans les régions de ce grand pays qui est la RDC. Nous avons donc commencé pour Kananga.
Dans la province du Kwilu, la Société nationale d'électricité SNEL du Grand Bandundu appelle le gouvernement provincial à sécuriser son poste haute tension des Tobakita situé sur la route nationale numéro 17, menacée par l'insécurité causée par la milice Mobondo. Son directeur provincial Prosper Bakuku Wanza a exprimé cette préoccupation le week-end dernier lors d'une réunion tenue dans les installations de la SNEL à Bandundu en présence du gouverneur intérimaire Félicien Kiwai, du comité provincial de sécurité et du président de l'assemblée provinciale du Kwilu. Selon lui, ces postes qui alimentent la ville de Bandundu en électricité a été saboté par des miliciens plongeant la ville dans l'obscurité. Si aucune mesure n'est prise, Bandundu risque de réviver cette situation avec des conséquences encore plus graves. Écoutons l'ingénieur Prosper Bakuku Wanza au micro de Irène Mbomaluzolo.
Le 9 avril 2025 à 17h45, les réseaux Ouest avaient enregistré le déclenchement des disjoncteurs de 120 kV du transfert au poste haute tension de Bandundu, plongeant dans le noir toute la ville et ses environs durant 6 jours. L'analyse de l'incident avait révélé que ce déclenchement était dû à la coupure d'une phase de la ligne haute tension tronçon Maluku-Bandundu. Après investigation et descente sur le terrain, nos équipes ont pu découvrir le sabotage des équipements électromécaniques du poste de sectionnement haute tension de Tobakita par des inciviques non autrement identifiés. Nos équipes ont pu rétablir la situation de façon momentanée. À présent, le fonctionnement normal du poste est complètement paralysé car Les inciviques ont sectionné les câbles électriques et emporté les éléments des batteries, cassé certains équipements électromécaniques. Si nous ne prenons pas garde, la ville de Bandundu risque de revivre la même situation, avec des conséquences plus graves, raison pour laquelle nous sollicitons le concours des autorités pour qu'une solution soit trouvée quant à la sécurité du personnel et des équipements de ces postes de haute tension, ce qui garantirait la continuité de la fourniture dans la ville de Bandundu.
L'ingénieur Bakoko a précisé que ce poste a été abandonné par les agents gardiens en raison des menaces de mort proférées par les miliciens Mobondo. Dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, le coordonnateur provincial de la jeunesse a lancé hier lundi une campagne de sensibilisation visant à encourager les jeunes et la communauté en général à adhérer à la réserve armée de défense RAD. Selon Guy Kibira, cette campagne constitue une réponse appropriée des forces de réserve face aux menaces sécuritaires potentielles. Il appelle toute la communauté à mobiliser ses différentes couche pour cette initiative. Guy Kibira, coordonnateur provincial de la jeunesse, explique au micro de Marc Marofimbo.
C'est bien bon de défendre la patrie, mais il faut encore être capacité pour savoir comment bien défendre la patrie, puisque il y en a ceux qui, à force de vouloir défendre la patrie, faute d'informations, ils agissent contre la patrie. Voilà pourquoi ils doivent passer par la formation. Les femmes qui veulent aussi servir la patrie, ils doivent entrer dedans. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes disent qu'elles ne sont pas dans des instances de prise de décision, dans la police, dans l'armée. Oui, mais combien d'entre elles se sont fait enrôler? Donc, c'est ça aussi mon appel. C'est là que nous appelons les parents, les différents leaders confessionnels, communautaires et autres des partis politiques, de mobiliser les jeunes, d'aller suivre cette formation. Parce que en cas d'éventualité, en cas de menace sérieuse, on ne fera recours qu'à ces citoyens qui ont déjà des prérequis, qui ne vont pas consommer en termes de temps et beaucoup de budget pour se ressaisir et faire face à des menaces criantes. Et c'est pour ça qu'on a même prévu une rémunération pour eux.
Le Fonds national de promotion et de services social FNPSS exprime sa solidarité envers les forces armées congolaises et le Wazalendo. Une collecte a été organisée hier lundi pour soutenir ces vaillants combattants engagés au front pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Selon Madame Alice Mirimo Kabeti, administrateur, directeur général du FNPSS et coordonnatrice du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Cette action vise à concrétiser la devise de sa structure, le social dans la solidarité. Écoutons ces propos au micro de Grasso Mvuenzolo Lembo.
Notre entreprise a comme devise le social dans la solidarité. Nous avons voulu manifester cette solidarité et aussi faire notre geste de collecte de fonds pour que nous puissions aller le verser dans le compte bancaire qui a été ouvert par le ministre de Finances et qui est intitulé Fonds Solidarité au FARDC. Nous irons déposer cet argent qui a été collecté au cours de cette cérémonie ici. C'est notre façon pour nous de manifester notre appui aux efforts de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses efforts qu'il ne cesse de déployer tout le jour pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Donc ça a été un moment fort et à cette occasion aussi, nous avons pris le soin de manifester aussi notre compassion et aussi notre souhait de voir la fin des hostilités, la fin de la guerre. À cette occasion, j'ai reçu ce trophée d'excellence de la part de Bravo X et je les remercie aussi pour avoir penser à reconnaître les mérites de mon travail.
Cette activité s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, du représentant de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, des membres du comité directeur du FNPSS, ainsi que des agents et cadres de cet établissement public. Pour protéger les occupants de l'université de Kinshasa contre certaines maladies, une activité de nettoyage appelée Giga Salongo s'est tenue vendredi dernier. Il s'agit de la deuxième édition cette année. Étudiants et personnel de l'établissement ont répondu en grand nombre à l'appel lancé par le comité de gestion. Le recteur a lui-même inauguré l'événement. Plantin Yambinga et Sandrine Kinsweki ont couvert ces travaux communautaires. Suivez.
Cette initiative du comité de gestion a suscité la joie de la communauté estudiantine, mais aussi des paroissiens de Notre-Dame de la Sagesse. Munis d'outils de travail, tous n'ont pas hésité à se lancer dans la collecte du mondice sur les sites universitaires. Pour les recteurs de l'UNIKIN, les professeurs Jean-Marie Kayembe, des dispositions seront prises pour pérenniser cette activité d'assainissement.
Nous voulons transformer les déchets en opportunités, en création éventuelle de richesses pour nos étudiants qui auront des jobs étudiants là-dedans, parce que nous allons certainement, et d'ici peu, commencer à transformer nos propres plastiques pour la création de dallettes qui vont aider à consolider un tant soit peu nos routes qui sont dans un état assez exécrable.
Le Giga Salongo est aussi salué par les vicaires de l'aumônerie catholique de l'université, M. l'abbé Claude Ngoma.
Mais d'abord, c'est un motif de joie, parce que depuis que je suis dans cette université, je rêve toujours mettre la propreté, et c'est cela mon cheval de bataille.
Quelques étudiants apprécient l'idée. Ils exhortent tous leurs camarades à s'impliquer pour garder les sites propres.
Ça nous concerne vraiment, et nous sommes actifs pour pratiquer ça.
Non seulement ça assainit le lieu, mais aussi ça nous permet, étant futures phytotechniciennes, à pouvoir prendre soin de la nature.
Notez que cette deuxième édition s'est déroulée le 25 avril, à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme et dont les vecteurs, l'anophèle femelle, se développent dans des lieux insalubres.
Actualité internationale.
Amnesty International fustige les attaques frontales de l'administration Trump contre le droit international. Dans son rapport annuel publié mardi, l'ONG s'inquiète des menaces croissantes qui pèsent sur le système mondial de défense des droits humains et accuse plusieurs États parmi les plus puissants de la planète, à commencer par les États-Unis, de saper les acquis du droit international, tout comme la lutte contre la pauvreté et les discriminations. Le droit international subit des attaques frontale des États-Unis depuis le retour du président Donald Trump, dénonce Amnesty International dans son rapport annuel publié ce mardi. Des forces d'une ampleur sans précédent veulent en finir avec l'idéal de droits humains pour tous et toutes, cherchant à détruire un système international forgé dans le sang et les souffrances de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, affirme la secrétaire générale Agnès Callamard dans la préface du rapport de l'ONG.
L'invité.
Ce matin, Radio Okapi accueille le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Il vient de conclure une tournée régionale débutée vendredi dans la région du Grand Lac. Durant cette mission, il a rencontré successivement le président de l'Ouganda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Les discussions ont principalement porté sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. À l'issue de cette tournée, Maxime Prévost partage ses impressions sur les échanges avec ses dirigeants et analystes. Les efforts diplomatiques en cours dans la région. Restez à l'écoute. Suivez.
Maxime Prévost, quel regard vous avez sur toutes ces initiatives actuelles visant à ramener la paix dans la partie est de la RDC, principalement le processus de Doha et celui porté par Washington?
Il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. Si nous sommes positifs dans l'accueil de ces initiatives, nous souhaitons surtout pouvoir mesurer les résultats concrets qui pourraient subvenir dans les jours ou semaines à venir, histoire de garantir que si un chemin a été tracé, il continuera d'être emprunté, qu'il n'y aura pas trop de nid de poule sur celui-ci et que la destination finale sera bien effectivement atteinte. En tout cas, la Belgique y apportera son concours dans la dimension qui peut être la sienne, à chaque fois que c'est nécessaire, de manière vocale, publique ou en coulisses, parce qu'il n'y a pas d'autre but recherché que la sécurisation de l'Est du Congo et des populations qui y vivent.
Que retenir des discussions que vous avez eues avec le président de la République démocratique du Congo?
Des messages forts ont aussi été adressés à l'attention des autorités congolaises. Parce que si nous sommes persuadés que la priorité doit être portée à la résolution du conflit armé par une réponse régionale et internationale, nous sommes aussi conscients qu'il est important des signaux soit donné et qu'un dialogue national soit nourri dans les frontières de la RDC. J'ai pu exhorter le président de la République à donner ces signaux, je pense notamment à la condamnation publique de la diffusion de tout message de haine à l'égard de quelconque communauté, y compris la communauté Tutsi, qu'il puisse y avoir aussi plus aucune ambiguïté quant à l'absence de collaboration entre l'armée régulière congolaise et le Front de Libération du Rwanda. Les FDLR n'ont pas à être considérés comme un interlocuteur acceptable par quelconque armée régulière. Ils doivent pouvoir aussi faire l'objet de poursuites par rapport aux exactions qui sont commises, et des signaux sont également clairement attendus à cet égard. Il y a aussi une volonté de nourrir le dialogue national, qui doit être aussi un adjuvant de la résolution des conflits et de la pacification, bien entendu, de l'ensemble du territoire congolais. J'ai donc plaidé pour qu'il puisse y avoir une attention réservée et donc aussi une écoute à l'initiative des évêques.
Des accords ont été signés entre le gouvernement congolais et celui du Rwanda d'un côté, et de l'autre, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 sur un cessez-le-feu. Cependant, il est surprenant que ces accords ne fassent pas allusion au Wazalendo. En tant que stratège de questions politiques, quelles prévisions faites-vous en termes de réussite de toutes ces initiatives pour retrouver la paix dans l'est du pays?
Par principe, quand vous avez une pluralité d'acteurs qui sont partie prenante à un conflit, il peut difficilement y avoir une résolution qui soit à la fois juste et durable si les différentes parties ne se retrouvent pas à un moment donné concernées et impliquées, parce qu'on courrait alors le risque d'une fragilisation du processus de paix par des perturbations exogènes aux acteurs qui y ont pris part. Et donc ça, j'ose espérer aussi que, n'étant pas autour de la table seule fin politique, que chacun y soit attentif.
Monsieur le ministre, au nom de la paix, est-ce que vous cautionnez à ce que les belligérants impliqués dans de présumés crimes dans l'est de la République démocratique du Congo soient graciés, parce que la paix est une nécessité actuellement dans cette partie du monde?
Un des principes sur lequel la Belgique n'a jamais transigé, c'est celui de lutter contre toute impunité. Et donc, quels que soient les acteurs parties prenantes du conflit, il n'y aura pas de réconciliation si le sentiment qui prédomine est celui, à un moment donné, d'une impunité à l'égard de celles et ceux qui ont commis des exactions atroces. Et donc, je suis confiant et je compte bien à ce que l'ensemble des parties prenantes qui vont façonner ces futurs accords de paix puissent aussi réserver l'attention nécessaire à ce principe essentiel, celui de rendre des comptes.
Merci, Maxime Prévost.
Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, au micro de Ronéline Timbonera. Sachez que le diplomate belge a été reçu en audience hier lundi par le président Félix Tshisekedi. Il a témoigné du soutien de son pays et d'autres États européens aux initiatives en cours prises par le gouvernement congolais, les instances sous-régionales et internationales en faveur de la paix en RDC. Selon lui, son pays donne un maximum de chances au succès de ces initiatives et contribue à apporter son concours à leur réussite. C'est ainsi que se termine cette édition du journal sur Radio Capi et la dernière de la matinale. La mise en onde a été assurée par Alain Goyo sous la supervision de Pélé Kipelamondo et présentation par Gisèle Cage. Pour suivre autrement Radio Capi, nous vous invitons de nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas surtout de consulter notre site web www.radiocapi.net pour des articles bien détaillés. Excellente journée à tous.